Hector Malot, Ghislaine. Première partie. Chapitre 1. Une file de voitures rangées devant le double portique de l'ancien hôtel de Brissac, devenu aujourd'hui la mairie du Palais Bourbon, provoquait la curiosité des passants qui savaient lire les armoiries peintes sur leurs panneaux ou simplement les couronnes estampées sur le cuivre et l'argent des harnais. Couronne diadémée et sommet du globe crucifère des princes du Saint-Empire, couronne rehaussée de fleurons des ducs, couronne des marquis et couronne des comtes. Un grand mariage! Mais, à y regarder de près, rien n'annonçait ce grand mariage. Ni fleurs dans la cour, ni plantes dans le vestibule, ni tapis dans les escaliers. Comme en temps ordinaire, le va-et-vient continuel des gens qui montaient au bureau de l'état civil ou à la justice de paix, dont c'était le jour de conciliation, sur billets d'avertissement et de conseils de famille. Au haut de l'escalier, dans le grand vestibule de premier étage et dans les étroits corridors du greffe, ceux qui étaient appelés pour les conciliations et pour les conseils de famille attendaient pêle-mêle. De temps en temps, un secrétaire appelait des noms et des gens entraient, tandis que d'autres sortaient dans l'escalier à double révolution. C'était un murmure de voix qui continuait les discussions que la conciliation du juge de paix n'avait pas apaisées. Le secrétaire cria « Les membres du conseil de famille de la princesse de Chambray sont-ils tous arrivés ?» Alors il se fit un mouvement dans un groupe composé de 6 hommes, d'une dame et d'une jeune fille qui attendaient dans un coin et qu'à leur tenue, autant qu'à leur air de n'être pas là, il était impossible de confondre avec les gens de toute classe qui encombraient la salle. « Oui !» répondit une voix. « Veuillez entrer !»« Mon oncle !» dit la jeune fille en s'adressant à celui qui venait de répondre. « Lady Cappadoce demande si elle doit nous accompagner. »« Ma foi, je n'en sais rien !»« Puisque c'est le conseil de la famille !» dit Lady Cappadoce d'un air de regret, et avec une intonation bizarre, formée de l'accent anglais mêlé à l'accent marseillais, « je suppose qu'il est mieux que je reste ici. »« Probablement. Veuillez donc nous attendre. Prends mon bras, mignonne. » Tandis que les membres du conseil de famille suivaient le secrétaire, Lady Cappadoce, restée seule, debout, au milieu de la salle, regardait autour d'elle. « Si madame veut en user, » dit un tonnelier qui causait avec un croque-mort, assis à côté de lui sur un banc, « on peut lui faire une petite place. »« Merci. Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. C'est de bon cœur. » Elle s'éloigna, outragée dans sa dignité de lady, que cet individu en tablier se permit cette familiarité, suffoquée dans sa pudibonderie anglaise, qui lui proposa une pareille promiscuité. Et elle se mit à marcher d'un grand pas mécanique, les mains appliquées sur ses hanches plates, les yeux à 15 pas devant elle. Pendant ce temps, le conseil de famille était entré dans le cabinet du juge de paix. « La ligne paternelle à droite de la cheminée !» dit le secrétaire en indiquant des fauteuils. « La ligne maternelle à gauche !» Prenant une feuille de papier, il appela à demi-voix. « Ligne paternelle !» Monsieur le comte de Chambray, oncle et tuteur. Monsieur le duc de Charmont, cousin. Monsieur le comte d'Ernaud, cousin. Et mademoiselle ? Demanda-t-il en s'arrêtant. Mademoiselle Ghislaine de Chambray, pour l'émancipation de laquelle nous sommes ici, dit monsieur de Chambray. Très bien. Puis, se tournant vers la gauche, il continua. Ligne maternelle. Monsieur le prince de quoi ? Monsieur le comte de la Roche-Audon. Monsieur le marquis de Lucilière, ami. Il vérifia sa liste. C'est bien cela. Monsieur le juge de paix est à vous tout de suite. Assis à son bureau, le juge de paix était pour le moment aux prises avec un boucher, dont le tablier blanc, retroussé dans la ceinture, laissait voir un fusil à aiguiser les couteaux, et avec une petite femme pâle, épuisée manifestement autant par le travail que par la misère. « Contestez-vous le chiffre de la dette ?» demandait le juge de paix à la femme. « Non, monsieur. »« Alors nous disons dette reconnue, » continua le juge de paix en écrivant quelques mots sur un bulletin imprimé. « Qu'en paierez-vous ces 27 francs 60 qui, avec les 90 centimes pour avertissement, font 28 francs 50.
Aussitôt que je pourrai, n'ayez crainte, nous sommes assez malheureux de devoir.
Il me faut une date, quel délai demandez-vous?
La fin du mois, dit le boucher, il y a si longtemps que j'attends.
Nous voilà dans la morte saison, mon homme est à l'hôpital, il n'y a que mon garçon et moi pour faire marcher notre boutique de reliures. S'il y avait de l'ouvrage.
Croyez-vous pouvoir payer 5 francs par mois régulièrement? Demanda le juge de paix.
Je tâcherai.
Il faut promettre et tenir votre promesse, ou bien vous serez poursuivi.
Je tâcherai. La bonne volonté ne manquera pas.
C'est entendu. 5 francs par mois. Allez. Le boucher paraissait furieux, et la femme était épouvantée d'avoir à trouver ses 5 francs tous les mois. Mademoiselle de Chambray, qui avait suivi cette scène sans en perdre un mot, se leva et se dirigea vers la femme qui sortait. « Envoyez demain à l'hôtel de Chambray, rue Monsieur, lui dit-elle vivement. On vous donnera une collection de musique à relier. » Et sans attendre une réponse, elle revint prendre sa place. Libre enfin, le juge de paix s'excusait en s'adressant à tous les membres du conseil de famille de les avoir fait attendre. « C'est sur la demande de Monsieur le comte de Chambray, dit-il, que vous êtes convoqué pour examiner la question de savoir s'il y a lieu d'émanciper sa pupille, Mademoiselle Ghislaine de Chambray, qui vient d'accomplir ses 18 ans d'hier, si je ne me trompe. »
« Parfaitement, répondit le comte de Chambray. » Un sourire passa sur le visage de tous les membres du conseil, mais le juge de paix garda sa gravité.
« C'est pour que vous voyez vous-même que ma nièce est en état d'être émancipée, continua M. de Chambray, que je l'ai amenée.
Je ne vois pas que Mademoiselle de Chambray ait l'air d'une émancipée, dit le juge de paix en saluant.
C'était en effet une mignonne jeune fille, plutôt petite que grande, au type un peu singulier, en quelque sorte indécis, où se lisait un mélange de races et dont le charme ne pouvait s'échapper même au premier coup d'œil. Ses cheveux, que la toque laissait passer en mèche sur le front, derrière, en chignon tordu à l'anglaise sur la nuque, étaient d'un noir violent, mais leur ondulation et leur frisure étaient si souples et si légères que cette chevelure profonde, coiffée à la diable, avait des douceurs veloutées qu'aucune teinte blonde n'aurait pu donner. Bizarre aussi était le visage fin, enfantin et fier à la fois, à l'ovale allongé, au nez pur, au teint ambré, éclairés par d'étranges yeux gris chatoyants, qui éveillaient la curiosité tant ils étaient peu ce qu'on pouvait demander à cette figure, moitié sévère, moitié mélancolique, qui ne riait que par le regard et d'un rire pétillant. Il n'y avait pas besoin de la voir longtemps pour sentir qu'elle était pétrie d'une pâte spéciale et pour se laisser pénétrer par la noblesse qui se dégageait d'elle. Sa bonne grâce, sa simplicité de tenue ne pouvaient avoir d'égal. Et dans son costume en mousseline de laine gros bleu à pois blanc, avec son petit paletot de drap mastic démodé, dont la modestie voulue montrait un mépris absolu pour la toilette, elle avait un air royal que l'être le plus grossier aurait reconnu et qui forçait le respect. Et c'était précisément à cet air que le juge de paix avait voulu rendre hommage, en vieux galantin qu'il était.
Au reste, c'est au conseil de se prononcer, dit-il.
« Nous sommes d'accord sur l'opportunité de cette émancipation, » répondit M. de Chambray. Les 5 membres du conseil firent un même signe affirmatif. « Alors, je n'ai qu'à déclarer l'émancipation, » continua le juge de paix. « Et vous, messieurs, il ne vous reste plus qu'à nommer le curateur. Qui choisissez-vous pour curateur ?»
5 bouches prononcèrent en même temps le même nom.
« Chambray !»«
Comment, moi ?» s'écria le comte. « Et pourquoi moi, je vous prie, pourquoi pas l'un de vous ?»«
Parce que vous êtes l'oncle de Ghislaine, parce que vous êtes son plus proche parent, parce que vous avez été son tuteur, parce que ses intérêts ne peuvent pas avoir un meilleur défenseur que vous. »
Ces 4 répliques étaient parties en même temps. Il allait leur répondre quand le vieux comte de La Roche-Audon, qui n'avait rien dit, plaça aussi son mot. Parce que depuis 8 ans, vous avez été le meilleur des tuteurs, parce que vous l'aimez comme une fille, parce qu'elle vous aime comme un père. » Monsieur de Chambray resta bouche ouverte, et son visage exprima l'émotion en même temps que la contrariété.
« Certainement, dit-il, j'aime Ghislaine, elle le sait, comme je sais qu'elle m'aime. Mais enfin, vous me permettrez bien de m'aimer aussi un peu, moi, et de penser à moi. C'est pour suivre ma fantaisie que je ne me suis pas mariée. Quand mon aîné a pris femme, je suis restée auprès de notre mère aveugle, et pendant 13 ans, elle ne s'est pas un seul jour appuyée sur un autre bras que le mien pour monter à sa chambre. L'année même où nous l'avons perdue, cet enfant, il se tourna vers Ghislaine, est devenue orpheline et j'ai dû veiller sur elle. Aujourd'hui, la voilà grande et par le sérieux de l'esprit, la sagesse de la raison, la droiture du cœur, en état de conduire sa vie. Elle a 18 ans, moi j'en ai 50. Il s'arrêta et se reprit. Enfin, j'en ai plus de 50, il me reste peut-être 5 ou 6 années pour vivre de la vie que j'ai toujours désirée. Je vous demande de m'émanciper à mon tour. Il n'est que temps. Je ferai remarquer à ces messieurs, dit le juge de paix, que monsieur le comte de Chambray, ayant été tuteur et ayant, en cette qualité, un compte de tutelle à rendre, ne peut assister la mineure émancipée à la reddition de ce compte en qualité de curateur, puisqu'il se contrôlerait ainsi lui-même.
« Vous voyez, messieurs !» s'écria M. de Chambray triomphant. « Mais, continua le juge de paix, si vous nommez un tuteur ad hoc, à l'effet de recevoir le compte de tutelle, vous pouvez, si telle est votre intention, confier la curatelle à M. le comte de Chambray. » « Vous voyez !» s'écrièrent en même temps les 5 membres du conseil de famille. « Je vois que c'est odieux, que c'est une tyrannie sans nom. » La mission du curateur ne consiste pas à agir pour le mineur émancipé, dit le juge de paix d'un ton conciliant, mais seulement à l'assister pour la bonne administration de sa fortune et dans quelques autres actes. « Mais comment voulez-vous que j'assiste utilement ma nièce dans l'administration de sa fortune quand j'ai si mal administré la mienne ?» En 8 ans, vous avez accru d'un quart celle de votre pupille. Toutes les protestations de M. de Chambray furent inutiles. Malgré lui et malgré tout, il fut nommé curateur. Quand on sortit du cabinet du juge de paix, il resta en arrière avec le duc de Charmont. « Que faites-vous ce soir ? » demanda-t-il. « Nous dînons avec des gueuses au café anglais, après quoi nous allons à la première des bouffes. » « Si Ghislaine ne me retient pas à dîner, j'irai vous rejoindre. En tout cas, gardez-moi une place dans votre loge. »